Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Notre débat dans une demi-heure, nous parlerons du remaniement ministériel en République démocratique du Congo. Deux entrées de taille dans le gouvernement. Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe qui confirment son retour en grâce. Qu'attendez-vous de ces nouveaux ministres? Toute l'équipe attend vos appels. Et avant de lancer ce débat, comme chaque jour, RFI répond à vos questions sur l'actualité. Nos journalistes, les experts sont là pour revenir sur les sujets qui vous intéressent. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour Anne et bonjour à tous les fidèles héritiers de RFI.
Vous êtes en ligne de N'Djamena, on vous écoute.
Oui, effectivement, j'ai appris sur l'antenne de RFI que la plupart des 400 rebelles des fois condamnés la semaine dernière à prison à vie, finalement gracés par le président de la transition, le général Mamadou Idriss Déby Itno. Mes questions sont de savoir pourquoi ont-ils finalement été gracés alors que leur condamnation était très lourde.
Alors Esdras Dikoumana du service Afrique va vous répondre. Bonjour Esdras.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Il y avait eu 6 semaines de procès à huis clos donc pour ces rebelles qui avaient lancé une grande offensive il y a 2 ans. Puis cette décision, la prison à vie pour presque tous les accusés. La grande majorité a donc été graciée depuis. Pourquoi si vite après le verdict?
Eh bien Anne, il faut se rappeler que le président de transition avait promis, juste à la fin du dialogue national en août de l'année passée, qu'il continuait de tendre la main au mouvement politico-militaire qui n'avait pas signé l'accord de paix de Doha. Et pour montrer sa bonne foi, Mahamat Idriss Déby avait promis de libérer rapidement les prisonniers de guerre détenus dans les prisons tchadiennes. C'est ce qu'il avait promis à l'époque. Eh bien, des centaines avaient bénéficié de la grâce présidentielle au cours des mois qui avaient suivi, à l'exception des prisonniers membres du FACT qui avait été arrêté à la suite de leur offensive d'avril de l'année passée lorsque Idriss Déby père a été tué. La raison est bien toute simple, N'Djamena voulait d'abord faire les choses dans les règles selon nos sources en organisant d'abord un procès puis en condamnant ses combattants avant de leur accorder la grâce présidentielle et c'est ce qui vient de se passer.
Une grâce donc pour près de 400 personnes, pourquoi pas toutes les personnes qui avaient été condamnées?
En effet, si on fait les comptes, on constate qu'il y a quelques 56 personnes condamnées qui n'ont pas bénéficié de la grâce présidentielle. Tout simplement parce que, explique le porte-parole du gouvernement Aziz Mohamed Saleh, eh bien, le président de transition avait promis sa grâce pour les prisonniers politiques. Or, ceux qui n'ont pas été graciés, ce sont ceux qui n'avaient pas été arrêtés, dont le président de ce mouvement, Mahamat Idriss Déby, eh bien, ils ont été condamnés par contumace et pour le moment, donc, ils ne bénéficient pas de cette grâce.
Moussa, vous aviez une autre question, je crois, à propos de ce procès et de ces grâces.
Oui, effectivement. Comment expliquer qu'une vingtaine d'entre eux, dont le chef de FAC, Mahamat Mahdi Ali, n'ont pas eu le droit des grâces?
Alors, on vient d'en parler avec Esdras Dikoumana. On peut aussi se demander si les personnes qui ont bénéficié de la grâce et leur défense sont satisfaites de cette décision, Esdras?
Eh bien, à vrai dire, ils ne sont pas tout à fait satisfaites. Il y a des questions qui restent pendantes. Notamment, ils estiment que, eh bien, tout le monde n'a pas bénéficié de la... Donc, tout le monde a... Ils estiment que...
25 accusés blanchis, acquittés. C'est moi qui ai fait une petite confusion. 25 personnes acquittées, on a parlé des grâces. Il y en a qui avaient été, pour lesquelles les charges avaient été complètement abandonnées. Est-ce qu'on sait pourquoi?
Eh bien, pour certains accusés, en fait, c'est vrai, on sait maintenant pourquoi. Il s'est avéré lors du procès qu'ils étaient là par erreur. Il s'agit de certaines personnes, par exemple de soldats de l'armée tchadienne qui avaient été arrêtés par les services secrets tchadiens pour des soupçons de complicité avec le FARC parce qu'ils avaient des proches dans ce mouvement. Eh bien, ces personnes ont été relaxées faute d'éléments contre eux. On y trouve également quelques personnes qui ont pu prouver qu'ils avaient été enrôlés de force au sein de la rébellion. Voilà, c'est les personnes qui ont été donc blanchies.
Et donc, est-ce qu'il y a eu des réactions déjà à ces décisions, ces acquittements?
Oui, par exemple, le chef de FARC n'est pas satisfait de ce qui s'est passé. Il estime que tout le monde aurait pu en bénéficier, même s'il ne reconnaît pas cette justice. De l'autre côté, la défense estime que ce procès a été un procès politique parce que les gens ont été condamnés collectivement. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce que dit Maître Francis Lokoulde, qui est l'un des principaux avocats de ces condamnés, eh bien, il estime que les gens ont été condamnés collectivement. On n'a pas montré la part de chacun, par exemple. Il n'y avait pas le rapport d'autopsie du président Idriss Déby. Il explique clairement, on ne sait pas comment il a été tué. On ne sait même pas s'il a été tué par balle, si on s'en tient à ce procès.
Merci Esdras Nicoumana d'avoir répondu aux questions de Moussa. Moussa, on vous souhaite une très bonne journée à N'Djamena. La deuxième question de la matinée nous vient de Bankass au Mali. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous aviez des questions sur le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Effectivement. J'ai entendu que l'accord conclu entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pourrait avoir des conséquences au Yémen où les deux pays sont impliqués dans la guerre civile. Alors, mes questions sont les suivantes. Peut-on s'attendre à un apaisement des tensions au Yémen?
Alors c'est vrai que ces deux pays sont engagés dans une guerre à distance. L'Iran soutient les rebelles houthis, l'Arabie saoudite appuie les autorités sunnites. 9 ans de guerre civile maintenant, près de 400 000 morts, l'une des pires crises humanitaires au monde. Bonjour Guilhem Deltaï.
Bonjour Anne, bonjour Abdoulaye.
Reporter au service international de RFI. Alors est-ce que ce rapprochement diplomatique entre les deux grands rivaux peut être un signe d'espoir pour le Yémen ?
A priori, oui, effectivement, sur le papier, c'est comme ça qu'on peut lire ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. On peut espérer que le conflit baisse en intensité dans les prochains temps. Il a déjà, à vrai dire, commencé à baisser en intensité. L'an dernier, souvenez-vous, les rebelles houthis, l'Arabie Saoudite avait conclu une trêve, c'était juste avant le Ramadan, en avril dernier. Elle avait été reconduite une fois. En octobre, les discussions pour prolonger cette trêve ont échoué, mais dans les faits, la trêve, elle perdure. Cela ne signifie pas alors pour autant que la guerre est terminée. Il y a encore des accrochages, quelques combats. Cette semaine, par exemple, les forces loyalistes ont accusé les Houthis d'avoir lancé un assaut dans la province de Ma'arib. C'est dans le nord du pays. C'est l'un des derniers bastions loyalistes, une province pétrolière très disputée entre les deux camps. Et cet assaut a fait 10 morts dans les rangs des forces loyalistes et des victimes aussi du côté Houthi. Des affrontements avaient déjà eu lieu dans ce secteur-là un mois plus tôt et des combats sporadiques avaient lieu également pendant la période de trêve. Donc on le voit bien, les hostilités n'ont pas totalement cessé, mais elles ont bel et bien baissé en intensité.
Abdoulaye, vous aviez une autre question ?
Effectivement. Un désengagement des deux pays est-il possible ?
Guilhem Deltaï.
Alors, du côté de l'Arabie Saoudite, Abdoulaye, on sentait déjà avant le rapprochement avec Téhéran une volonté de sortir de ce conflit. Riyad s'est engagé militairement au Yémen en 2015 et son intervention militaire n'a pas permis de gains territoriaux substantiels. La guerre est coûteuse pour l'Arabie Saoudite, surtout en termes d'image, les bombardements qui faisaient des victimes civiles. Mais l'Arabie Saoudite était aussi accusée d'accroître la famine dans le pays. Le Yémen importe l'essentiel de sa marchandise et des bateaux qui allaient livrer la marchandise à destination des zones contrôlées par les Houthis étaient détenus pendant plusieurs semaines par l'Arabie Saoudite et la coalition officiellement pour inspection, mais c'était vu comme une forme de blocus qui ne disait pas son nom. Alors depuis un an, des négociations ont lieu entre les Houthis et l'Arabie Saoudite sous l'égide d'Oman, un pays voisin, et elles n'ont pas cessé malgré la fin de la trêve. L'Arabie Saoudite a accepté d'alléger les procédures pour les bateaux de marchandises. Riyad cherche aujourd'hui, à se poser comme un intermédiaire entre les Houthis et le gouvernement yéménite qu'elle héberge sur son territoire. Du côté de l'Iran, en revanche, les signaux récents, en tout cas, étaient un petit peu moins évidents. Téhéran livre, on le sait, des armes aux Houthis. Des cargaisons ont été saisies par des forces occidentales encore ces derniers mois, ce qui montre que ces routes d'approvisionnement étaient toujours en place. Il faudra donc voir dans les prochains temps quelles sont les concessions faites par l'Iran à l'Arabie Saoudite. Mais au-delà des livraisons d'armes, en fait, l'Iran a assez peu de contrôle sur les Houthis qui conservent une autonomie politique et donc sur leurs propres décisions.
Donc c'est un peu moins clair pour du côté de l'Iran. Merci beaucoup Guilhem Deltaï d'avoir été avec nous pour répondre aux questions d'Abdoulaye. Dans la seconde partie de l'émission, je vous le rappelle, nous parlerons du remaniement ministériel à Kinshasa, de l'entrée au gouvernement de Vital Kamerhe et de Jean-Pierre Bemba. Que vous inspirent ces changements, l'arrivée de ces deux poids lourds de la vie politique congolaise? Il est encore temps de nous appeler, de nous écrire si vous souhaitez participer au débat. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes maintenant. D'ici là, on va parler de la Libye. Bonjour Brahim.
Bonjour Ron, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On écoute vos questions.
Oui, les États-Unis exhortent les dirigeants libyens à assurer la tenue de l'élection générale en 2023. De quels moyens disposent-ils pour faire pression sur la Libye?
Alors, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Jalel Harchaoui, chercheur associé au sein du Royal United Services Institute de Londres. Bonjour.
Bonjour.
C'est la secrétaire d'État adjointe aux affaires du Proche-Orient qui l'a dit en visite à Tripoli la semaine dernière. Alors, quels sont les moyens de pression des États-Unis pour amener les deux camps, celui du gouvernement reconnu par la communauté internationale et celui du maréchal Khalifa Haftar, à s'accorder sur la tenue d'élections cette année?
Les États-Unis ont deux outils principaux. Le premier a été mentionné effectivement par Barbara Leaf quand elle était à Tunis lors d'une interview. Elle a parlé de sanctions. Contre les spoilers, c'est-à-dire les Libyens qui viendraient gâcher le processus onusien qui est censé mener aux élections. La façon dont on a parlé a indiqué aussi que les États-Unis ne sont pas vraiment prêts à émettre des sanctions à l'encontre de certains individus libyens qui sont actuellement au pouvoir. L'autre outil, qui est très important aussi, c'est la pression que pourrait exercer Washington à l'encontre des États régionaux, je pense à l'Égypte, à la Turquie, aux Émirats Arabes Unis, etc., donc des amis des États-Unis, qui en fait ne sont pas vraiment en faveur d'élections réelles en Libye. Et moi, je pense personnellement que les États-Unis ne vont utiliser ni le premier outil, ni le second outil.
Et ce calendrier, est-ce qu'il est tenable? Cette année, c'est réaliste?
Je pense pas, parce qu'on est quand même tard dans l'année. Vous savez, les gens parlent encore de certaines choses qui devraient être faites d'ici le mois de juin. Et puis on dit, voilà, si ça se passe pas au mois de juin, on va démarrer tel autre processus. Vous savez, si aucun processus réel n'est déjà démarré pour vraiment contraindre les élites libyennes s'assujettir à ce processus qui consiste quand même à les remplacer, si à la fin mars, il n'y a toujours rien, vous savez, les mois ont tendance à filer très très vite dans ces circonstances. Je suis assez pessimiste.
Jalel Harchaoui, je crois que Brahim avait une autre question pour vous. Brahim, on vous écoute.
Oui, comment réagissent les autorités libyennes aux exigences américaines?
Jalel Harchaoui, est-ce qu'il y a eu des réactions déjà?
Généralement, vous savez, les Libyens, de manière générale, et même leurs intellectuels, sont plutôt fatigués, très fatigués. Ils ont compris une chose par rapport aux Américains, c'est que il y a un discours en faveur de la démocratie libérale. Il y a beaucoup d'intellectuels libyens qui sont en faveur de la démocratie libérale, mais quand ça vient des États-Unis, il y a une ambiguïté, il y a une espèce d'incertitude constante, et ils ne font pas confiance aux États-Unis. Ils aimeraient bien que les États-Unis fassent ce qu'ils disent, mais ils ont compris aussi que les États-Unis font très rarement ce qu'ils disent.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi prendre avec des pincettes ce qu'a dit le secrétaire d'État quand il dit que les États-Unis souhaitent rouvrir une représentation diplomatique en Libye?
Non, ça par contre c'est vrai. Le terrain, la parcelle de terrain près de l'aéroport de Mitiga, donc dans le flanc est de la capitale Tripoli, a déjà été sécurisée. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour les élections, parce que pour mener à bien ce projet de nouvelle ambassade, eh bien, il faut garder de bonnes relations avec les individus qui sont actuellement au pouvoir. Et ces individus-là sont malins. Ils vont se servir de cette promesse aux États-Unis pour justement instrumentaliser cette dynamique et rester le plus longtemps au pouvoir. Donc l'annonce de Blinken est une mauvaise nouvelle pour les élections.
Alors parmi eux, il y a le président du Haut Conseil d'État à Tripoli. Il lui a fait savoir carrément que son assemblée tenterait d'empêcher la tenue des élections. Qu'est-ce qu'il peut mettre en œuvre? Quelle est sa capacité de nuisance, disons?
Cet individu dont vous parlez officiellement est plutôt pour les élections, ce qu'il est en train de faire allusion à un autre groupe qui est plutôt contre lui au sein de sa chambre, sa chambre législative supérieure, c'est un peu l'équivalent du Sénat. Encore une fois, toutes ces paroles, il faut les prendre avec de grosses, grosses pincettes. Effectivement, il y a une division au sein du Haut Conseil d'État, mais la personne qui se dit en faveur des élections n'est pas forcément la plus sincère, malheureusement.
Dernière question, Jalel Harchaoui. On a entendu récemment, en tout cas ce que j'ai lu dans la presse, des informations qui évoquent la possibilité d'une réorganisation militaire, d'intégration de milices dans l'armée. Est-ce que vous nous le confirmez? Est-ce que ça, c'est un pas vers la tenue d'élections en Libye?
C'est ce que dit l'envoyé spécial Abdoulaye Batili. Il est très
l'envoyé
très
spécial des Nations Unies.
Oui, c'est ça. Il est très content de s'afficher avec ces cérémonies qui ont eu lieu hier à Tripoli, qui sont très impressionnantes, comme ça, sur le plan visuel. Encore une fois, les territoires les plus stratégiques, par exemple les territoires qui comportent les grands puits de pétrole qui sont actuellement contrôlés par le maréchal Haftar, je suis très très dubitatif, je suis très sceptique, je ne pense pas que des groupes armés du rival du maréchal Haftar, c'est-à-dire le premier ministre d'Abeba, puissent avoir accès aux territoires les plus importants. On va peut-être voir des espèces de manœuvres comme ça, un petit peu spectacle, dans des territoires qui n'ont pas de valeur stratégique, pour faire plaisir comme ça à la communauté internationale et donner un message optimiste. Mais il faut garder un œil sur les puits de pétrole les plus cruciaux. Et là, je ne vois pas du tout de partage. Il n'y aura pas d'acceptation ni de la part de l'armée du maréchal Haftar, ni même des tribus locales.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jalel Harchaoui. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Royal United Services Institute de Londres. Merci d'avoir répondu aux questions de Brahim. La dernière question de la matinée, nous sommes en ligne avec Amadou. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les amoureux du football.
Parce qu'on va parler foot avec vous, on vous écoute.
D'accord. À la surprise générale, l'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a été limogé la semaine dernière. Pourquoi a-t-il été licencié malgré ses bons résultats en Ligue des Champions?
Hugo Moissonnier du service des sports est en studio pour vous répondre. Bonjour Hugo.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
C'est vrai que le timing est très surprenant. Personne ne l'avait vraiment vu venir, ce départ de l'entraîneur du Bayern.
Oui, surtout après les performances, comme le rappelait notre auditeur, en Ligue des Champions. 8 victoires, 8 matchs, deuxième attaque, meilleure défense, élimination du PSG, même si ça, c'est pas très difficile, en huitième de finale. Oui, en Europe, le Bayern Munich de Nagelsmann aura réalisé un sans faute, pratiquement. Et c'est sur le plan domestique que ça passait moins bien. 3 défaites en championnat, rien d'énorme, mais le géant bavarois est devancé au classement par Dortmund. Et ça, clairement, le Bayern n'en a plus l'habitude. Laisser filer la Bundesliga, c'est quelque chose qui est arrivé au Bayern pour la dernière fois en 2012, il y a plus de 10 ans. Les difficultés en championnat, la Bundesliga, ainsi qu'un niveau de jeu souvent décevant, malgré un effectif parmi les meilleurs d'Europe, on dit les dirigeants, ont coûté cher à Nagelsmann.
D'autant plus que déjà la saison dernière, des déroutes embarrassantes en Coupe d'Allemagne et surtout en Europe contre Villarreal avaient fait naître des doutes.
Oui, cette équipe est toujours capable de réaliser des exploits, mais elle montre toujours des faiblesses incompréhensibles. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux d'Oliver Kahn, aujourd'hui dirigeant du Bayern, après avoir été un gardien de but de légende. Ce n'est pas la première fois ces dernières années que le Bayern se sépare d'un entraîneur en cours de saison. Il y avait eu Ancelotti qui avait pris la porte en 2017 ou encore Kovac en 2019. Et à chaque fois, le Bayern avait réalisé au final une très très belle saison. Alors, jamais 203, on verra.
Et pourtant, Julian Nagelsmann était un entraîneur sur lequel le Bayern semblait beaucoup compter.
Oui, car c'est un surdoué, un génie précoce. Il devait s'inscrire dans la durée. Il a 35 ans à peine, Nagelsmann. Il a débuté en première division à même pas 30 ans pour des résultats spectaculaires. Un coach que le Bayern aura débauché moyennant une grosse somme d'argent. Et ça, c'est très rare de payer pour récupérer un entraîneur. Il vient de la Bavière, mais il n'aura pas été prophète dans son Länder, on va dire ça comme ça. Un jeune homme à la forte personnalité et également parfois qui fait preuve d'arrogance. Il avait notamment dit, avant de se faire piteusement éliminer par Villarreal en Ligue des Champions la saison dernière, que si son Bayern jouait normalement, il en passerait 5 ou 6. Ce n'est pas ce qui s'était passé. Donc voilà, personnalité un peu problématique, Nagelsmann.
Alors Amadou avait aussi une question sur son remplaçant, Thomas Tuchel. Lui qui a perdu son dernier match de Ligue des Champions avec Chelsea, comment est-ce qu'on peut expliquer ce choix? Est-ce que lui a la capacité d'emmener le Bayern jusqu'au bout?
Oui, parce que tout simplement, il l'a déjà fait avec Chelsea, justement de fort belle manière en 2021. Et d'ailleurs, à l'époque, il avait pris l'équipe Chelsea en cours de saison. Donc vous voyez, Thomas Tuchel également finaliste du tournoi en 2020 avec le PSG, un petit exploit contre le Bayern. Justement, c'est l'un des meilleurs entraîneurs, et pas qu'en Allemagne du moment. Aussi un entraîneur qui a l'habitude de bien débuter ses expériences avant de les achever dans une ambiance des plus tendues, puisqu'à chaque fois ça se passe très mal sur la fin. Il avait notamment quitté Dortmund en conflit ouvert avec ses dirigeants. C'était il y a 6 ans maintenant. Dortmund, rival au classement du Bayern, je vous l'ai dit, et prochain adversaire du géant bavarois pour la première de Tourelle, ce sera ce samedi.
Merci beaucoup Hugo Moissonnier d'avoir répondu aux questions d'Amadou. On vous souhaite une très bonne journée à tous les deux.